8h30 en temps universel. Merci d'écouter RFI. Martin Guèze pour toute l'information sur le continent africain. Bonjour Martin.
Bonjour Juan Gomez et à tout de suite sur RFI. Pas de temps à perdre pour Léon XIV. Première messe, première homélie dans quelques minutes devant les cardinaux. Léon XIV dont l'élection est forcément très commentée à travers le monde entier. La Chine félicite le nouveau pape ce matin alors qu'au Sénégal, son premier discours de paix a été particulièrement bien reçu. Le Sénégal où 5 anciens ministres seront bientôt devant la haute cour de justice. Décision validée à l'Assemblée nationale hier. 5 ex-membres du gouvernement poursuivent suivi pour détournement du fonds Covid. À Moscou, commémoration des 80 ans de la capitulation de l'Allemagne nazie ce vendredi 9 mai. Défilé militaire auquel assisteront plusieurs chefs d'État africains. Et puis enfin, une découverte morbide en Afrique du Sud. Une centaine de vautours d'espèces protégées retrouvés morts dans un parc national. Première messe ce matin pour Léon XIV. Pas de temps à perdre pour le nouveau pape. Il célébrera dans une demi-heure une messe privée avec les cardinaux et prononcera sa première homélie en tant que pape, un moment toujours très attendu. Léon XIV, Robert Francis Prévost, à l'état civil, premier américain à devenir pape dans l'histoire. La fameuse fumée blanche est sortie de la cheminée vers 18h, heure du Vatican, après seulement 4 tours de vote au conclave. Devant une foule en effervescence, il a fait hier sa première apparition et a adressé un message de paix aux catholiques du monde entier. Message bien reçu au Sénégal par Abbé Bernard Mbabouero, curé de la paroisse de Goundop au Sénégal, pas du tout déçu que le pape ne soit pas africain.
Nous accueillons l'élection de ce nouveau pape avec joie. Nos attentes, c'est que ce nouveau pape ait la même vision que le pape François et qui vraiment a essayé de mettre tout le monde au même pied d'égalité et qui a eu un œil envers nos églises d'Afrique, les églises les plus pauvres. Alors nous pensons que ce nouveau pape aussi va avoir cet œil sur cette église d'Afrique, église où la pauvreté est là, est criarde, mais aussi la guerre et tout, ce qui ici comme conflit et fléau. Et nous pensons que nos attentes, c'est que ce nouveau pape ait l'œil sur cette église d'Afrique. C'est Dieu qui choisit ses pasteurs. Alors c'est Dieu à travers des hommes qui a choisi ce pape, donc on ne peut pas parler de déception. Même si là, nous, on s'attendait peut-être, ou bien on avait un espoir, on avait nourri un espoir de voir le premier pape noir, mais ça ne peut pas être vu en termes de déception, parce que à travers les cardinaux, nous disons que c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui donne à son église un pape.
Les propos recueillis par Ibrima Timbiba de la rédaction en full D de RFI. Une élection qui a suscité des réactions dans le monde entier. Et au Nigeria, deuxième pays africain en nombre de fidèles catholiques, le président Bola Tinubu a déclaré que l'arrivée de Léon XIV ouvrait un nouveau chapitre dans les valeurs d'amour et de charité, en particulier vers les plus défavorisés. Le chef d'État sud-africain Cyril Ramaphosa a particulièrement apprécié l'appel à la paix du nouveau pape qui honore l'héritage de François. L'élection du pape Léon XIV, on y revient juste après ce journal avec Juan Gomez dans Appel sur l'actualité.
RFI.
5 anciens ministres bientôt devant la haute cour de justice au Sénégal. Ce jeudi après-midi, les députés de l'Assemblée nationale ont voté à la majorité une résolution ouvrant une série de procès. La haute cour de justice, qui est la seule juridiction habilitée pour juger des faits reprochés à d'anciens ministres ou d'anciens chefs d'État, ces ex-membres du gouvernement soupçonnés d'avoir détourné des fonds destinés à lutter contre la pandémie de Covid à partir de 2020. L'ancien garde des Sceaux est lui accusé de corruption. Correspondance à Dakar de Biraïm Touré.
Moustapha Diop, Amadou Mansour Faye, Aïssatou Sofie Gladima, Salimata Diop et Ismaïla Major Fall, tous d'anciens ministres qui ont servi sous le magistère de Macky Sall, constituent le premier lot de ministres qui vont passer devant la haute cour de justice. Ainsi en a décidé l'Assemblée nationale qui a voté ce jeudi les résolutions de mise en accusation pour faire la lumière sur la gestion des finances attribuées à la lutte contre le coronavirus. Une partie de ce fonds, Force Covid-19, destinée à soutenir les ménages et entreprises en difficulté durant la pandémie, aurait été détourné, selon un rapport de la Cour des comptes qui a poussé le parquet financier de Dakar mi-avril dernier à annoncer sa volonté de poursuivre devant la justice un certain nombre de personnes, dont d'anciens ministres. Les députés ont donc majoritairement décidé de donner le feu vert à la justice. Depuis 1960, la Haute Cour de justice n'a été sollicitée qu'à 2 reprises, en 1963 pour juger l'ancien président du Conseil Mahamadou Dia et en 2005, l'ancien premier ministre Idrissa Seck qui avait bénéficié finalement d'un non-lieu total. Biraïm Touré, Dakar, RFI.
En Guinée, la procédure contre Alpha Condé et 26 autres hauts responsables est au point mort. Procédure pour crime de sang ouverte en janvier 2023. Plusieurs centaines de personnes ont été tuées lors de rassemblements durant les 11 années de présidence d'Alpha Condé. Avocats et familles dénoncent la lenteur de la justice. Une centaine de personnes ont été auditionnées, ainsi qu'une grande partie des mises en cause. Mais depuis, silence radio. Maître Tierno Souleymane Baldé, avocat des victimes, a décidé de s'adresser directement au président de la transition, Mamadi Doumbouya.
Nous l'avons adressé un courrier pour solliciter son implication pour l'aboutissement de l'enquête préliminaire qui a été initiée depuis le 20 janvier 2023 concernant les crimes et délits commis sous le régime de M. Alpha Condé. Il y a eu des centaines de victimes qui ont été auditionnées. Certaines personnes qui sont accusées d'avoir commis ces crimes ont été aussi entendus, mais depuis une certaine période, nous constatons un arrêt au niveau des activités de la commission qui a été mise en place. Et c'est la raison pour laquelle nous avons adressé un courrier au niveau de la présidence, aussi au Premier ministre, le ministre de la Justice et le procureur général près de la Cour d'appel de Conakry.
Tierno Souleymane Baldé, président de l'Institut de recherche sur la démocratie et l'état de droit et avocat des victimes. Au Soudan, de nouvelles frappes de drones ce matin, et ce pour le sixième jour consécutif sur Port-Soudan, siège provisoire du gouvernement, frappe attribuée aux paramilitaires des forces de soutien rapide, en guerre contre l'armée depuis plus de 2 ans. Ces tirs ont visé ces derniers jours des points stratégiques de cette ville clé pour l'acheminement de l'aide humanitaire. Frappé à savoir dépôt de carburant et la base navale. Ce vendredi 9 mai 2025, qui marque les 80 ans de la capitulation de l'Allemagne nazie en Russie. Si la France ou la Grande-Bretagne ont célébré hier la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, les Russes le font aujourd'hui car il était 1h du matin, heure de Moscou, lorsque l'Allemagne a signé sa reddition. Des commémorations qui sont pour Moscou l'occasion de montrer que le pays n'est pas isolé sur la scène internationale. Plusieurs dirigeants étrangers sont annoncés, Xi Jinping, Lula, Nicolas Maduro, mais aussi Denis Sassoon Nguesso, le maréchal Khalifa Haftar et le chef de la junte burkinabé, Ibrahim Traoré. Précision, François Mazet.
Une demi-douzaine de dirigeants africains seront ce matin en tribune pour assister au défilé de la victoire de ce que les Russes appellent la Grande Guerre patriotique. La plupart ont une bonne relation de longue date avec Moscou, comme Denis Sassoon Nguesso, arrivé au pouvoir à Brazzaville quand le Congo était officiellement marxiste. Sur place depuis mercredi, il a déjà rencontré Vladimir Poutine. Les deux hommes ont loué l'amitié entre les deux pays. Autres présents, l'équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema, le bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo, le zimbabwéen Emerson Mnangagwa, l'égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le président éthiopien Taye Atske Selassie, dont la fonction est principalement honorifique. Sur place également le maréchal Khalifa Haftar, qui contrôle l'Est libyen, plus que jamais plaque tournante stratégique et logistique pour Moscou, et Ibrahim Traoré. C'est le troisième voyage seulement hors des pays de l'AES pour le chef de la junte burkinabé depuis le putsch de septembre 2022, le deuxième en Russie. Il doit être reçu en tête-à-tête au Kremlin samedi.
Explication François Mazet. À New York cette nuit, le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé le mandat de la MINUS, la mission de maintien de la paix au Soudan du Sud. Un mandat renouvelé pour 1 an, les Nations Unies, qui exigent toujours la fin immédiate des combats. Et puis maintenant, en football, finale 100% anglaise en Ligue Europa. Manchester United, porté par une entrée fracassante, l'entrée de l'Ivoirien Amad Diallo, de retour de blessure et passeur décisif hier contre Bilbao, pour une victoire 4-1 des Mancuniens, les Red Devils qui retrouveront Tottenham en finale le 21 mai à Bilbao. Les Spurs du Malien Yves Bissouma, titulaire hier au milieu de terrain, ont battu Bodø/Glimt 2-0 en demi-finale retour. Et puis enfin, direction l'Afrique du Sud, une bien étrange hécatombe de vautours. Cela se passe dans le célèbre parc Kruger. Selon l'agence de parcs nationaux sud-africains, 123 rapaces de différentes espèces en voie de disparition sont morts après avoir ingéré les restes empoisonnés d'un éléphant. Retour sur cette morbide découverte avec Igor Strauss.
La carcasse du pachyderme servait d'appât. Elle avait été préalablement imprégnée de pesticides par des braconniers sans scrupules. Une méthode de plus en plus en vogue en Afrique australe pour cibler des espèces comme le lion, dont les organes sont prisés dans la médecine traditionnelle, mais qui fait de nombreuses victimes collatérales. John Davis de la fondation Endangered Wildlife Trust.
L'empoisonnement de la faune sauvage est une catastrophe. Des animaux comme les vautours sont particulièrement touchés, même s'ils ne sont pas la cible initiale. Ils peuvent parcourir de grandes distances et découvrir des carcasses très facilement. Et quand l'un d'eux commence à manger, les autres le suivent. Des centaines d'oiseaux peuvent donc être empoisonnés en même temps sur un site.
Souffrant d'un certain désamour en raison de leur statut de charognard et d'un manque d'élégance, France, les vautours jouent pourtant un rôle essentiel, comme le rappelle John Davis. L'Inde
est un exemple concret. Quand les vautours ont été décimés dans les années 80-90, le nombre de chiens errants a considérablement augmenté et de nombreux Indiens ont contracté la rage. Pour le système de santé du pays, c'était une catastrophe.
Ce cas d'empoisonnement est le plus grave depuis 2019. À l'époque, plus de 500 vautours